Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est votre émission sportive préférée que vous retrouvez sur Mon Paris FM, hein, 19h, 20h30. Alors, J-100, on en a beaucoup parlé au cours de cette semaine, hein, puisqu'on a, ça y est, entamé le compte à rebours par rapport donc, aux Jeux Olympiques. On en reparlera naturellement avec notre invité et avec une interview qu'on a ramenée suite à la conférence de presse de Tony Estanguet. Et puis, on va saluer aussi Alexandre qui était à Barcelone la semaine dernière. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Philippe, ouais. Ça va très très bien, bonsoir
ça
à
va,
tous.
Ça va, la déprime, c'est fini.
C'est pas...
Je blague.
C'est pas fini, mais bon.
Parce qu'il est journaliste, mais il est aussi supporter de Barcelone. Mais il est avant tout journaliste. Et puis notre invité, comme toute la tradition le veut, on va parler des sports dont on ne parle pas trop souvent, sauf chez nous. C'est Pedro Ferreira, le président de l'ACBB Aviron 92. Pedro, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, je peux dire que c'est le président du club le plus prestigieux d'Île-de-France que je reçois ce soir.
Oui, on peut dire qu'on est le club le mieux classé en tout cas d'Île-de-France.
Club numéro un.
Ouais. Voilà. Et je fais une petite correction.
Oui.
Donc, on est section aviron de la CBB, mais
oui.
on utilise comme nom de marque Boulogne 92,
voilà, c'est
parce
ça.
Qu'on est reconnu par le département des Hauts-de-Seine comme club excellence,
oui.
Au même titre que des clubs que vous connaissez très bien, hein, comme le Racing 92,
oui.
Comme
oui, c'est vrai.
Les Metropolitans 92.
Mais moi, j'ai voulu dire ACBB parce que pour le public, ça marque mieux. Hein.
Évidemment,
oui,
bien sûr.
Voilà. C'est un grand club omnisport. L'aviron en est un des sports importants.
Oui, on est dans les cinq sections qui ont le plus d'adhérents et on est une des sections qui a les meilleurs résultats sportifs, en tout cas en termes de classement national.
Mmh.
Et on fait partie, on va dire, des sections de l'ACBB fondatrices.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y avait de mémoire cinq sections qui ont fondé le club en 1943, dont l'aviron. Donc, il y a une grande tradition d'aviron sur Boulogne.
Oui, aujourd'hui, donc, l'aviron, un des sports majeurs, avec le foot peut-être, le judo.
Oui, le foot, ouais. Le judo. Bien sûr, il y a des tas de sports. Il y a 32 sections.
Ouais.
Je vais en oublier certainement d'en citer, mais il y a le rugby à Boulogne,
bien sûr.
Il y a le handball, il y a le basket.
Ouais.
Il y a même des sports un peu moins connus, comme le hockey.
Mmh.
Le hockey sur glace, les sports de glace aussi, tout ça c'est des sections, les boules lyonnaises, la pêche sportive.
Bon, c'est bien.
Je vais certainement en oublier.
Ouais.
Le ping-pong.
Mais en plus, Boulogne, tout le monde connaît, hein, parce que c'est donc aux confins de Paris. Il y a des infrastructures, notamment le Parc des Princes qui est à la limite Boulogne et puis Paris. Ça fait un petit peu rêver. Vous avez tous les avantages d'être à la fois non pas dans Paris et d'être à proximité de Paris.
Alors, oui, justement, et pour mon sport, hein, pour parler d'aviron, on a deux grands atouts. Le premier, c'est un équipement exceptionnel qui ne se situe pas sur le périmètre de Boulogne, mais juste en face, sur la ville de Sèvres, et qui s'appelle le parc nautique Île-de-Monsieur.
C'est là qu'étaient les usines Renault, pas très loin. Hein.
Voilà, c'est là qu'il y avait une gare de triage.
Ouais, c'est
en fait,
ça. Il connaît bien Alexandre. Ouais.
Oui, je connais bien. C'est un peu mon coin, tout ça.
Ouais.
Voilà, et ça, c'est un équipement qui a été inauguré en 2017, financé intégralement par le département des Hauts-de-Seine, avec un très grand investissement qui a, par exemple, demandé le déplacement de la ligne du tramway T2. Vous imaginez bien ce que ça a représenté.
Ah bah oui.
Et avec une infrastructure exceptionnelle. Pour vous donner une idée, on était sur une vieille barge qui datait de la Seconde Guerre mondiale sous le pont de la 13 côté Boulogne. Quand on déménage, on était à peu près 200. Et aujourd'hui, on frôle les 900 adhérents. Donc, ça vous montre bien la qualité de l'équipement. Et l'autre avantage, on va dire pour nous, on est un club qui accueille, on est une section, on va dire, qui accueille beaucoup de Parisiens.
Eh oui, bah oui.
Parce qu'on ne peut pas pratiquer dans Paris. En raison du règlement de police, la navigation à la rame est interdite.
Mais comment on peut aller ramer dans Paris, sur Paris ?
On ne peut pas, on doit s'arrêter au pont du périph, notre côté.
Ah là là.
Et donc, ce qui fait qu'on on draine beaucoup de Parisiens, surtout de l'Ouest parisien, des personnes qui veulent pratiquer notre sport. On a la chance d'avoir le tramway T2 et la ligne 9 du métro, et donc les gens viennent... ramer chez nous, voilà.
Alors, on parlait du Parc des Princes, on reviendra naturellement à partir de 20h hein, sur la semaine foot folle qu'on a vécue avec notre ami Stéphane Dezenclou qui sera dans nos studios exceptionnellement ce soir. Vous êtes combien actuellement à la CBB ?
Alors, la CBB, en total, je pense qu'on frôle les 12 000.
Oui, et l'aviron ?
Et l'aviron, on a dépassé les 900 la semaine dernière.
Ah, 900 ouais. Pratiquants. Et ça se répartit comment entre les jeunes, les moins jeunes, les filles, les garçons ?
Alors, on a une moyenne d'âge assez élevée, hein, je ne vais pas vous cacher, on est dans la quarantaine.
Quoi ça conserve, l'aviron ?
Voilà, l'aviron, notre adhérent le plus âgé, il est né en 1927.
Oh là là.
Voilà. Il est au club toutes les semaines.
C'est Monsieur Georges Cotin. Il va être centenaire dans 3 ans, quoi.
Il a été vice-président du club. Il a été le chef des entraîneurs longtemps. Il est là.
Il barrait.
Mais là, il est là toutes les semaines. Il fait de l'entretien de matériel. Il aide les rameurs à arriver au ponton, à partir. Et c'est un personnage du club.
Ah bah oui.
Voilà. Mais on a quelques rameurs qui ont dépassé les 75 ans et qui continuent à ramer.
Oui. Donc, du moment qu'on va à son rythme, il n'y a pas de problème. C'est un sport qu'on peut pratiquer comme le vélo assez régulièrement, quoi.
Oui, c'est un sport porté, comme le vélo. Donc, très peu traumatique.
Oui, bah oui.
Et c'est un sport que... quand il est bien pratiqué, il ne blesse pas. Donc, il faut bien sûr le pratiquer dans le cadre d'un club avec du personnel qui soit compétent, parce que pour ne pas se blesser, comme dans tous les sports. Mais quand il est bien pratiqué, surtout, vous savez, on a deux disciplines en aviron. Je fais une petite parenthèse. On a ce qu'on appelle la couple, où on rame avec deux avirons, un dans chaque main, et la pointe, où on a un seul aviron. Couple est extrêmement symétrique.
Bon, c'est bien, c'est ce qu'on allait aborder, mais c'est bien, allez-y.
Voilà. Et c'est un sport qui est symétrique et qui donc est même conseillé sur certaines pathologies. Certaines pathologies du dos.
Ah, d'accord.
Les médecins nous envoient des gens, nous disent, voilà, ça serait bien que vous pratiquiez un sport pour faire du renforcement musculaire, allez voir chez l'aviron.
Donc, ah oui, il n'y a pas besoin d'aller à la salle de... De gym, hein, on fait l'aviron. C'est un des sports les plus complets. Hein. On en parlait hors antenne. Je crois qu'avec la boxe, c'est peut-être le sport le plus complet.
Oui, oui, tout à fait. C'est un sport déjà qui est très exigeant en termes de VO2 max. Hein. Vous verrez les champions. Mais c'est un sport qui fait travailler pratiquement tous les muscles. Parce que, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, on propulse un bateau d'aviron avec ses jambes, et on finit la propulsion avec ses bras.
Ouais. En 80%, c'est ça, les jambes ?
Oui, on dit que c'est 80% jambes. Et donc, ça fait bouger tout. Les jambes, le dos et les bras. Et donc, c'est un sport assez complet. Et comme il est très exigeant d'un point de vue physique, il est très bien pour le cœur, pour la respiration et tout ça.
Oui, alors, le cardio, il monte à combien ?
Ça dépend des personnes.
Oui, non, mais donc, gros.
Je pense qu'un bon athlète, il passe les 200.
Ouais,
mais,
c'est ça.
Mais...
Et l'embarcation, combien de kilomètres heure quand on est un grand athlète ?
Une vingtaine de kilomètres heure sur un bateau à 8 rameurs, de très bon niveau international.
Ah oui, donc il faut déjà courir pour le suivre.
Ah oui.
Oui, non, mais c'est pour le grand public, c'est intéressant.
Alors, si un jour vous regardez, et je vous invite à aller sur à faire sur Marne, où ils vont avoir lieu les Jeux Olympiques.
Oui, je connais, j'ai été à l'inauguration. Je crois que vous y étiez aussi.
Exactement.
On ne se connaissait pas, on s'était croisés, mais voilà.
Si vous y allez, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle la route des entraîneurs qui longe le bassin. Donc, notre sport se pratique sur une distance olympique de 2000 mètres. Et donc, les entraîneurs, il y a une route goudronnée parce qu'ils sont tous à vélo.
Ah oui, c'est
vrai. Ils
ne
pourront
pas
suivre
en
courant.
C'est vrai.
Ça va trop vite.
D'ailleurs, on parlait de Vers-sur-Marne. Hein. Ça a été le premier site olympique inauguré, donc, je crois, après peut-être le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. C'était donc un des sites inaugurés en 2019, avant tout le monde. C'est un outil qui est merveilleux quand même. Il y a beaucoup de pays qui doivent l'envier, entre l'aviron puis le canoë-kayak. C'est des outils fabuleux quoi, pour les sportifs qui pratiquent ces disciplines.
C'est vrai, hein. C'est un très bel équipement.
La fédération d'ailleurs est là-bas maintenant.
Non, c'est la fédération de kayak. La fédération d'aviron elle reste à Nogent-sur-Marne.
Elle y viendra pas un jour.
Ouais. Non, mais la Ligue est là-bas.
Ah,
la
Ligue Île-de-France. J'aime bien qu'il y avait une petite. Ouais. D'accord.
Par contre, j'aimerais bien dire qu'on a une chance inouïe en France d'avoir des équipements. Il n'y a pas que vert.
Oui.
En région parisienne.
Mais c'est le summum, non?
Oui, c'est oui. Vert. C'est ouais.
Vert sur Marne. Hein.
Je vais peut-être être un peu méchant, mais pour moi, le plus beau endroit pour faire de l'aviron en France, c'est Aigbelette.
C'est où ça?
C'est en Haute-Savoie.
D'accord.
C'est
très, en Haute-Savoie
très beau. Oui.
Au Pays de la Neige.
On a organisé un championnat du monde à Aigbelette. C'est extraordinaire. C'est très, très beau. Ceci dit, Vert, c'est un très bel équipement. Mm-hmm. On a un deuxième en Île-de-France, à Mantes-la-Jolie.
Oui, très beau.
Qui est très bien. Et puis, il y a des bassins d'aviron un peu partout en France. C'est ça qui permet aussi à notre sport de se développer.
Mm-hmm. Donc, en Île-de-France, on peut en faire partout, sauf dans Paris. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Je peux vous donner les chiffres. Hein. 43 clubs.
43 clubs,
en Île-de-France.
Oui.
Et j'ai regardé ce matin, 8730 licenciés sur toute l'Île-de-France.
D'accord. Voilà. Donc, c'est un sport qui plaît quand même ou alors c'est un sport qui régresse au niveau des effectifs?
C'est un sport qui, je dirais, monte doucement, pour ne pas dire qu'il stagne. Ceci dit, on est sur la fin du mandat de l'actuelle Fédération d'Aviron qui font un gros effort de développement du sport. Mmh. Notamment en développant la pratique qu'on appelle, de mon point de vue erronément, la pratique loisir.
Oui.
Parce que c'est quand même un sport.
Ah bah oui.
Et on a la chance, en Île-de-France, d'organiser quelque chose qui est extraordinaire. La plus grande manifestation d'aviron en France, et peut-être la plus grande en Europe, si on exclut la Vogalonga en Italie, s'appelle la Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine, qui a lieu tous les ans en septembre, qui est très peu connue.
Ah oui, parce que...
Voilà, année dernière, on a accueilli 253 équipages, plus de 1000 rameurs.
Ah d'accord.
Qui partent de...
Et ils partent d'où alors?
Ils partent de Sèvres.
D'accord.
Ils font le tour derrière l'île Saint-Louis et ils reviennent à Sèvres. Le seul journée dans l'année où on peut ramer dans Paris.
D'accord. Et ça, c'est quand? C'est au mois de septembre, non?
Cette année sera le 15 septembre.
D'accord, ok. Voilà. Bah, juste après les Jeux, donc c'est bien. Hein.
Voilà. Et des équipages du monde entier. Mm-hmm. On a eu des Néo-Zélandais, des gens qui viennent de Chicago.
Alors, nous, on regrette qu'il n'y ait pas un Oxford ou Cambridge, comme ça se fait en Angleterre, le long de la Tamise, là-bas.
Malheureusement, ça n'existe pas, mais c'est en train de se mettre en place. Ouais, ouais. Donc là, le week-end prochain, dimanche prochain, les jeunes du pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense organisent une régate avec le soutien de la mairie de Paris. Sur le bras de Grenelle, donc pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est la partie de l'île aux cygnes qui se situe côté 15e.
D'accord.
Entre le pont de Bir Hakeim et la statue de la liberté. Mmh. C'est un tout petit parcours et ils font un défi universitaire avec les grandes écoles, les universités. Et cette année, ils auront un des collèges de Cambridge. C'est la deuxième édition. Donc,
Ça va peut-être perdurer, ça va peut-être devenir une
tradition. C'est ce qu'on veut. On veut que les équipes principales commencent à venir. Voilà. Mm-hmm.
Alors, est-ce que vous, pour votre sport, naturellement, ça ne passe pas par un nombre important de médailles? À chaque fois qu'il y a des médailles dans des disciplines olympiques, il y a un surcroît de licenciés, hommes et femmes.
Oui, on a certainement...
Donc, on attend beaucoup de 2024.
Oui, bien sûr. Des Jeux. Ouais. Bien sûr. Mais... Ouais. La barre est haute. Hein. N'oubliez pas qu'à Tokyo, on a fait une médaille d'or et une médaille d'argent. La France, avec une athlète francilienne, dans la médaille d'argent quand même. Claire Beauvais de Mantes.
Ah bon, oui. Alors, justement, je disais, J-100, vous êtes impatient de vivre ces Jeux et comment vous allez les vivre? Vous allez les accompagner, vous investir?
Alors,
en tant que président de la section 92 d'aviron.
Personnellement, donc, j'étais partie prenante dans l'organisation de ce qui aurait dû être le test event, qui est devenu un testing activity. Bon, peu importe. Donc, j'étais très, très impliqué dans le championnat junior. Mm-hmm. Et donc là, je suis sélectionné en tant que bénévole pour la partie chrono.
Ah, ben c'est bien, c'est bien.
Je ne vais pas voir grand-chose, pour être honnête.
Non, mais ce n'est pas grave, vous serez au cœur de l'action.
Mais je serai au cœur de l'action, voilà.
Et donc, on va rappeler où?
à Vers-sur-Marne, sur le stade.
Non, mais moi, je le sais, mais ouais, ouais.
Voilà. Hein? Et on est, de mon club, on est 7 bénévoles sur des postes très, très variés.
Vous les voyez comment ces jeux, ça va être une immense fête.
C'est ce qu'on souhaite.
Ouais, non, mais ce pessimisme ambiant qu'on a régulièrement, c'est assez français, ça, quand même. Hein?
Oui, mais bon, là, en prenant un peu de recul, on a quand même... on est presque prêt.
Oui.
Presque tous les équipements sont prêts.
Oui.
On a les équipes de France qui travaillent pour faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir des bons résultats sportifs. On a bien sûr, je ne vais pas vous cacher, quelques inquiétudes encore. Par exemple, en aviron, on cherche encore à qualifier des bateaux. On a pour l'instant trois bateaux qualifiés pour les Jeux Olympiques, un peu plus pour les paras. Mais y a, voilà, moi, je suis très optimiste et je pense que ça va être une grande fête du sport.
Eh ben justement, J-100, on a eu la chance donc, au siège de Paris 2024 d'être à la conférence de presse. On va écouter ce que disait donc Tony Estanquet. Eh ben Tony, comment on est, dans quel état d'esprit donc à maintenant J-100 de ces Jeux?
On a hâte. Non, c'est vrai que c'est génial d'entrer dans cette dernière ligne droite avec enthousiasme, avec conviction, avec détermination. On n'a rien lâché depuis 7 ans maintenant pour réussir de grands jeux. Ça fait 100 ans qu'on attend ça. La France sera au rendez-vous. La France va être au rendez-vous de jeux assez inédits, à la fois spectaculaires, mais aussi engagés sur des enjeux importants pour notre société. Donc voilà, pour l'instant, le plan se déroule très bien. On a hâte d'accueillir les plus grands athlètes qui se qualifient les uns après les autres. Je crois que 60% des athlètes sont d'ores et déjà qualifiés pour ces Jeux. Ils sont en pleine prépa, ils se préparent dur. Et nous, on est dans la dernière ligne droite. On va accueillir le Relais de la Flamme le 8 mai prochain, dans moins d'un mois, pour entamer cette dernière ligne droite avec des millions de Français qui ont envie de profiter de cet événement rare. Notre génération ne reverra peut-être jamais les Jeux d'été. Donc profitons de cette dernière ligne droite et organisons de grands jeux.
Tout est prêt, tous les voyants sont ouverts?
Alors tout n'est pas prêt, c'est aussi pour ça qu'il reste 107 jours avant le début des Jeux. On a vraiment nous calibré l'ensemble de nos préparatifs. On est en train de récupérer l'ensemble des sites de compétition qu'on va monter maintenant dans les dernières semaines. Mais effectivement, on a franchi, nous, les différentes étapes. On est dans nos temps de passage de préparation. On n'a pas d'indicateur aujourd'hui qui nous inquiète particulièrement, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur les transports, que ce soit sur le budget, où on a sécurisé aussi notre budget. Et c'était un enjeu important. Vous le savez, l'organisation des Jeux se finance à 96% par de l'argent privé, donc c'était un enjeu de sécuriser ses revenus. C'est le cas, on avance avec envie et enthousiasme.
Voilà, envie, enthousiasme, c'est ce que tous les amoureux du sport, Pedro, ressentent aussi. Hein. Ils ont hâte d'y être, hein. On est à moins 100 jours maintenant. Hein.
Ah oui, clairement. Hein. Moi, je peux parler des athlètes que je connais. Nous, on a un athlète qui sera aux Jeux paralympiques, qui est... Oui. Bon espoir de médaille de France qui s'appelle Laurent Cadeau.
Vous nous l'emmènerez s'il est médaillé. Si...
Voilà. Et je sais que Laurent est impatient d'y aller. Il est sur ses plans d'entraînement. Ça fait plus d'un an et demi qu'il s'entraîne dans ce but. Il fait des très belles performances. Il vient encore de remporter le championnat de France de bateau court avec une avance très très confortable sur ses adversaires. Donc voilà, c'est son objectif actuellement, hein, d'aller aux Jeux paralympiques de Paris.
Oui. Il n'y a pas un peu d'inquiétude pour la Seine quand même, la propreté de la Seine?
Alors nous, ça ne nous concerne pas.
Oui, non, je sais bien, mais
le bassin, il est sur la Marne.
Vous devez entendre parler autour de vous quand même. Hein.
Oui, on entend parler. Alors, je vais être très honnête, hein, on est sur l'eau toutes les semaines. Moi-même, je suis déjà tombé à l'eau. Bon, pas récemment, mais une ou deux
ça
fois.
Ça va, il n'y a pas de bouton.
Non,
pas de...
personne n'est gravement malade en tombant sur la Seine. Voilà, c'est... Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste des analyses de l'eau de la Seine, mais la situation n'est pas aussi catastrophique que parfois on l'entend. On est dans un endroit où il y a beaucoup de péniches résidentielles et on voit qu'il y a eu un effort de fait. Là-dessus, on voit beaucoup moins de décharges, on voit nous-mêmes rameurs, on voit beaucoup moins de dégazage que ce qu'on voyait encore 5 ou 6 ans,
d'accord,
honnêtement.
Alors justement, on a demandé à Tony Estanguet qu'est-ce qu'il pensait de l'étude récente qui avait été faite et qui était plutôt pessimiste vis-à-vis donc, de la scène.
Ouais, j'étais un peu surpris effectivement qu'on fasse une étude sur une qualité d'eau en plein hiver, dans des moments où on sait bien que les rivières, les fleuves, on sait bien que les rivières et les fleuves ne sont pas dans des états qui permettent la baignade. Il n'a jamais été question de vouloir se baigner dans la Seine pendant l'hiver. L'objectif, déjà, c'est de réussir à pouvoir se baigner pendant l'été. Et tout est mis en œuvre pour que ce soit le cas dès l'été prochain. Ça a déjà été le cas, d'ailleurs, en partie l'été dernier. C'était important d'avoir ce premier rendez-vous l'été dernier, qui a été assez prometteur. Donc aujourd'hui, on reste mobilisé. Et moi, je voudrais saluer l'excellent travail qui est mené actuellement pour que la Seine puisse accueillir des compétitions de triathlon et de natation marathon pendant les Jeux, mais surtout qu'elle puisse être ouverte à la baignade après les Jeux pour potentiellement des milliers de personnes.
Est-ce que c'est un plan B, justement, si au cas où la qualité de l'eau n'est pas suffisamment bonne pour les athlètes ?
On a des plans de contingence sur l'ensemble des moments de ces Jeux. On travaille depuis maintenant 7 ans pour identifier l'ensemble des risques, des dangers qu'on pourrait rencontrer. Et donc, site par site de compétition, jour par jour, on regarde, encore une fois, des plans de contingence. Pour les compétitions de triathlon et de nage dans la Seine, on a aussi ce plan de contingence. Et donc aujourd'hui, on avance avec sérénité pour réussir cette organisation.
Voilà, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas réussie.
Ah non, absolument pas. Moi, si je peux permettre d'ajouter un petit point pour les gens qui nous écoutent sur la propreté de la Seine. Nous, on rame. Donc, on voit très bien ce qui nous gêne le plus, nous, rameurs, c'est tout ce qui est charrié par la Seine en raison de, on va dire, des petites incivilités. Les gens, ils ne se rendent pas compte quand ils sont en train de faire la fête sur un pont ou en bord de Seine, quand ils jettent une bouteille à l'eau, ça va probablement taper un bateau et ça peut abîmer du matériel qui coûte trop cher. Et voilà, on voit. Dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, on commence à voir les bouteilles. Pour la petite anecdote, le plus incroyable que j'ai vu, c'est une poussette.
Une poussette ?
Oui, sans le bébé.
Ah oui, heureusement encore. Ouais.
Voilà, non mais des barrières de chantier, c'est très courant. Tous ces trucs-là, ça finit par venir, parce que la Seine, elle va vers Boulogne, va finir par venir chez nous. Ça finit par s'accumuler à certains endroits où il y a des cages qui sont faites pour, mais ça finit par coûter de l'argent aussi aux contribuables parce que c'est beaucoup plus cher de vider les ordures qui flottent sur la Seine que de vider une poubelle où les gens auraient mis leurs bouteilles. Donc ça, c'est quelque chose.
Ouais. Voilà. Alors, c'est un sport que vous pouvez faire toute l'année, même quand il fait moins 2. La seule difficulté, c'est la crue, la montée de la Seine.
Oui, alors, il y a bien sûr... Donc, on pratique toute l'année.
Ouais.
S'il fait très froid, on se couvre.
On est bien couvert.
On est bien couvert. On a des moufles qui permettent de ramer sans prendre froid aux mains.
Des collants spéciaux maintenant.
Voilà, tout ça existe. Donc, comme vous dites très bien, c'est la crue de la Seine, c'est problématique parce qu'au-delà d'une certaine vitesse, ça peut devenir dangereux. Donc, on vient de sortir là d'une période de restriction à cause de ça. Et puis, il y a deux autres situations qui sont, elles, c'est le non total, c'est la foudre. Dès qu'il y a un orage, un rameur qui sur un plan d'eau...
On joue avec sa vie quand même, là.
Voilà, avec un aviron qui est en carbone, il est conducteur. Donc là c'est niet. Et la nuit, on ne peut pas ramer la nuit parce qu'on...
C'est-à-dire jusqu'à 22, 23 heures, après c'est fini.
Jusqu'au coucher de soleil. Ouais, parce que c'est la règle de la Fédération française d'aviron, parce qu'on est très peu visible sur l'eau, on est très bas. La Seine, c'est quand même presque une autoroute, donc on ne peut pas. Voilà.
D'accord. Mais sinon, il n'y a aucune contrainte, même s'il neige ou il pleuve, on peut le faire.
Il n'y a pas de contrainte là-dessus, non.
Donc, on parlait du nombre de licenciés et de pratiquants. Vous avez beaucoup de femmes ?
Alors, on est à ce moment 41% de femmes.
Ouais,
voilà. Bien. Et c'est le chiffre et dans mon club et en Île-de-France, à peu près équivalent.
D'accord. Alors, on a cité le plus ancien de votre club. Quel est le plus jeune ou la plus jeune?
Alors, le plus jeune, je ne sais pas qui c'est exactement, mais il a 11 ans. Voilà. On est un sport qui commence un peu tardivement, un peu pour...
Bah, peut-être que oui, quand même.
Non, mais c'est
la
surtout...
La dépense physique, c'est peut-être pas donné, quand même.
Oui, mais on pourrait faire des animations.
À tout le monde, ouais.
On pourrait faire des animations.
À 5 ans, c'est peut-être compliqué quand même.
Oui, mais il n'y a pas de matériel adapté.
Et c'est oui, ça, c'est
un
ça.
Peu le problème.
C'est ça, oui, oui.
Voilà.
Donc, ça veut dire que si on est intéressé pour venir pratiquer votre sport, on peut venir vous voir à partir de quel âge? 11 ans
c'est... À partir de 11 ans, même 10 ans si c'est un enfant qui est grand. Mm-hmm. C'est une question plus de taille à ces âges-là que d'âge.
D'accord. Ouais, justement, est-ce qu'il y a une morphologie pour l'aviron? Il faut être grand plutôt que petit rablé.
Alors,
si on a un petit peu de surpoids, on est condamné à faire notre sport.
Non, non, tout le monde peut pratiquer ouais. l'aviron. Alors ouais. après, c'est comme dans tous les sports. Ouais. Je veux dire,
il y a des plus doués que d'autres.
Un sauteur en hauteur, il est forcément grand.
Oui.
Donc, un rameur, on va dire le morphotype normal d'un rameur, ça va être quelqu'un qui est un garçon. Hein, je parle
oui,
des garçons
oui, oui.
qui va être dans le 1m90
ah,
et 100 kilos. Avec, surtout, ce qui compte,
oui, 100 kilos.
C'est d'avoir des longs segments, mm-hmm. c'est-à-dire des longs bras et des longues jambes, parce que c'est ce qui va donner un coup d'aviron très long.
Mm-hmm.
Donc, vous avez, mais comme dans tous les sports, pensez par exemple à l'athlétisme, quand Usain Bolt a commencé, tout le monde disait qu'il n'a pas le morphotype du coureur de 100 mètres. Et pourtant, vous avez vu la carrière qu'il a. Dans l'aviron, il y a aussi des exceptions. Donc, il ne faut pas aller sur mesurer les gens et dire « toi, tu vas faire de l'aviron ». Non, il faut que les gens essayent. Et puis, voilà.
Alors, quand ils commencent, donc, ils prennent une licence qui est l'ordre de combien? Est-ce que c'est un sport qui est cher?
C'est un sport qui est cher.
Ah oui?
Clairement. Ça dépend ce que vous voulez dire par cher. Quand on compare à d'autres sports, dans mon club, la licence avoisine les 500 euros par an.
500 euros par an. Voilà. Ça, ça donne droit à toutes les séances d'entraînement,
oui.
toutes les compétitions.
Tout
si
est compris.
Mmh.
Voilà.
Bon, il n'y a pas besoin de trop d'équipement, par contre.
Alors, justement, une des raisons du prix de la licence dans les clubs, c'est que c'est le club qui fournit les bateaux.
Eh ben,
voilà.
C'est pareil pour tous les clubs?
Oui.
Oui, oui, parce que alors, le pratiquant ne va pas acheter son bateau quand même.
Il y a certains pratiquants qui veulent acheter les bateaux.
Ouf.
À Boulogne, nous, on ne stocke pas des bateaux particuliers. Parce que sinon, on n'aura pas de place pour les bateaux du club, tout simplement. Mmh. Mais pour vous donner une idée, on a eu à renouveler une partie de notre...
Oui, parce que c'est pareil, les bateaux, ça a dû énormément... évoluer quand même. Hein.
Oui, mais c'est pas
alors,
que ça.
Ça devient plus cher, fatalement.
Oui, ce que
ça va plus vite, c'est plus rentable, non?
Non, c'est que ce qui nous est arrivé, c'est beaucoup plus bête que ça. C'est
on vous l'a volé?
C'est le changement climatique.
Ah ouais?
On était sur un championnat de France il y a 3 ans, à Vichy. Il y a eu un événement climatique avec une tempête de grêle.
Et ça les a complètement...
Qui nous a abîmé 17 bateaux.
Ah ouais?
Pour un préjudice de 370 000 euros. Mmh. Donc, on a reçu récemment un bateau de 8 rameurs de haut niveau. Il vaut dans les 60 000 euros, pour vous donner une idée. Donc, c'est un investissement très important.
Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est le prix d'une licence. Ça paye les bateaux. Après, la tenue, c'est une tenue simple.
On est sur une combinaison, donc, c'est-à-dire une tenue complète.
Ça, on la trouve partout, dans tous les commerces de sport.
Oui, mais chaque club fait à ses couleurs.
Oui, bien sûr. Ah,
voilà,
oui. Donc, vous fournissez la tenue?
Non, ils achètent. D'accord. Quand ils vont dans des compètes, ils achètent. La tenue coûte dans les 60 euros. Voilà.
Et ensuite, donc, quand on fait ce sport, il y en a pour tout le monde au niveau des créneaux. Chaque jour, il y a une tranche d'entraînement pour les différentes catégories.
Alors, on va avoir un club qui est organisé. On a une grosse partie compétition où il y a des entraîneurs qui font... Bon, il y a des créneaux particuliers, mais ils font beaucoup d'entraînements à la carte.
Mmh. Ah oui?
Bah oui, quand vous avez des athlètes de haut niveau, les entraîneurs, ils les suivent selon la disponibilité de l'athlète.
Mmh. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer l'entraînement à 8h, 9h le matin.
Il y en a qui vont
travailler. Jusqu'à 22, 23h, quoi.
Nous, on a des gens qui vont s'entraîner avant d'aller travailler.
Mmh.
Ce qu'on appelle des compétiteurs seniors qui ont commencé leur vie active. Moi, de temps à autre, je vais au club. Ils sont là à 7h du mat, au lever du soleil. Ils vont faire une séance sur l'eau et puis ils se douchent et ils vont travailler. Donc, ça peut aller de 7 heures jusqu'à des gens qui restent à la gym jusqu'à 22 heures parfois. Par contre, sur le public, on va dire, non compétiteur, Là, il y a des séances...
Il y a des créneaux réservés, bloqués. Quoi. Ouais, ouais.
Voilà, avec de l'encadrement spécifique. Donc, en général, week-end, vendredi après-midi, et dès le changement d'horaire, 2 jours par semaine en fin de journée.
Vous parliez des blessures. Quelles sont les blessures les plus fréquentes?
Alors, bien sûr, si vous regardez mes mains, on a tous des calomains.
Oui, la paume, ouais, ouais.
Voilà, on a des calomains, on a des petites blessures, souvent quand on ne se coupe pas les ongles. Dû au croisement.
Ah, oui.
Voilà, ça c'est la blessure que je vais appeler anodine. Après, dans le haut niveau, vous pouvez avoir des fractures de fatigue, notamment aux côtes.
Des fractures de fatigue. Oui. On aurait plus cru des tendinites, des choses comme ça. Mais...
Ça existe aussi, oui. Bien sûr. Et ça, il y a aussi quelques blessures du rachis. Voilà, ça peut arriver de moins en moins parce que les athlètes sont de mieux en mieux suivis et préparés par les coachs. Mais jusqu'à il y a 20 ans, il y avait beaucoup de gens qui finissaient avec des vertèbres soudées. Mais maintenant, ça n'existe pratiquement plus. Voilà. Après, il y a des accidents, comme dans tous les sports. Oui. Ça peut arriver.
C'est un sport dangereux?
Pas du tout.
Non. Mais il faut savoir nager si on tombe dans l'eau.
C'est obligatoire. Ouais. Quelqu'un qui s'inscrit, savoir nager 25 mètres, c'est obligatoire. Oui. Voilà. Je vous disais, il y a... un très grand sportif français, Stanis Delaire, qui s'est blessé en entraînement d'équipe de France juste avant un championnat du monde et qui s'est pris un bout de bateau sur le dos et qui s'est fait très très mal et qui s'en est sorti très bien. Mais pour la petite histoire, on est le seul sport en marche arrière.
Ah ouais. Allez, eh bien, on va écouter la petite pause musicale Bob Marley, Get Up, Stand Up. Et ensuite, ce sera le journal des sports. Cette fois-ci, on ne l'oubliera pas, on ne le zappera pas, d'Alexandre. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a call that Peter is cold.
For your right, get up, stand up, get up, stand up.
Pedro, on écoute de la musique en s'entraînant, en ramant?
Surtout quand on rame sur la machine, ce qu'on appelle nous l'ergomètre. C'est donc ce que vous connaissez tous dans les salles de sport, le rameur en salle. On a tendance à faire des entraînements très longs pour la partie aérobique. Et donc très souvent, on se met ses écouteurs et on écoute la musique. En bateau, un peu moins parce que... On doit quand même, comme je disais tout à l'heure, on est en marche arrière, donc il faut qu'on fasse attention.
Voilà, en tout cas, il viendra tester tout cela, Alexandre. En attendant, il nous présente le journal des sports de ce week-end, Alexandre.
Absolument, Philippe. On commence ce journal des sports avec le record du monde au saut à la perche du Suédois Armand Duplantis. Ça s'est passé samedi en Chine où pour la 8e fois de sa carrière, il a battu le record du monde. Cette fois-ci, c'est à 6m24 que le Suédois s'est élevé et tout ça en laissant une belle marge. Donc que de bons présages pour la suite d'Armand Duplantis.
Il fait comme Boudka, centimètre par centimètre.
Voilà, exactement. Ouais. Il y avait aussi du top 14 ce week-end avec la victoire du Stade français contre l'Aviron Bayonnais 28-24 et la victoire du Racing 92-43-13 face à l'Oyonnax Rugby. Le Stade français, toujours leader avec 67 points, est à 6 points devant le Stade toulousain 2e et 10 points devant le Racing 3e. L'Oyonnax Rugby et Montpellier sont les deux relégables. En basket, le Boulogne-Levallois a perdu contre Le Mans 110-96. Le club du 92 est toujours bon dernier du classement, alors que Nanterre s'est imposé sur le parquet de Chalon-sur-Saône 97-89. Il reste 5e au classement derrière Lyon, Villeurbanne, Bourg-en-Bresse, Paris et Monaco. Les Parisiens qui ont gagné justement 86-66 face aux Lyonnais. Les Monégasques, eux, continuent sur leur bonne série après s'être imposés largement face au Portel 101-67. Le Paris Saint-Germain a perdu samedi en finale de Coupe de France de handball, 31-23 face à Nantes. À 3 points derrière le PSG en Star League, les Nantais sont toujours en lice pour le triplé Coupe Championnat et European Champions League. Chez les femmes, ce sont les handballeuses du CA Évron qui remportent la finale de la Coupe de France des régions face à Beaurepaire 25-17. On passe au sport mécanique maintenant, Philippe.
Grand week-end de sport mécanique.
Très grand week-end de sport mécanique, avec notamment la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Chine hier. Lando Norris, à bord de la McLaren, a réussi à se hisser entre les deux Red Bull et termine la course à la seconde place. Charles Leclerc et Carlos Sainz pour Ferrari terminent 4e et 5e. Au classement des constructeurs, Red Bull est loin devant Ferrari et McLaren. Mercedes continue sa mauvaise saison et pointe toujours à la 4e place. Enfin, le groupe français Alpine est malheureusement avant-dernier du classement. Il y avait aussi le rallye de Croissy avec la victoire du français Sébastien Ogier devant le britannique Elfyn Evans et le belge Thierry Neuville. Et pour terminer les sports mécaniques, il y avait les 24 heures du Mans en moto qui s'est soldée par la victoire de la Suzuki numéro 12 du SERT juste devant la BMW numéro 37. Enfin, pour finir ce journal des sports, il y avait aussi le Liège-Bastogne-Liège en cyclisme. Victoire du Slovène Pogacar qui confirme sa bonne saison. 6 Français dans les 20 premiers, dont Romain Bardet 2e et Aurélien Paré-Peintre 6e.
Voilà, un journal des sports très complet. Bah, t'as gagné le droit donc, d'aller faire un petit peu d'aviron.
Pour
voilà,
m'étendre.
C'est ça. Pedro, vous aimez tous les sports?
Oui, bien sûr.
Oui, ouais, oui. Tous les sports, hein. Comme nous.
Sports,
hein. Ouais,
exactement.
Ouais. Et vous êtes portugais d'origine. C'est un sport qu'on pratique au Portugal?
L'aviron, oui. Alors, le plus ancien club du Portugal et de l'Espagne, c'est un club d'aviron.
Ah bah ouais.
Ça s'appelle l'Association Navale de Lisbonne.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Qui est de, c'est la mémoire est bonne, des années 1850. Donc, c'est très ancien.
Ouais. Effectivement. Voilà. Alors, cette semaine, bon, naturellement, excepté l'actu foot dont on parlera tout à l'heure, il y a eu, je l'ai dit, donc, la commémoration des J-100. On l'a passé avec l'allumage de la flamme olympique à Olympie. La première relayeuse, ça a été Laure Manaudou, hein, la première relayeuse française. On va rappeler que cette flamme, elle arrivera donc à Marseille le 8 mai, hein, par le Bellheim, et puis ensuite, eh ben, 64 territoires la verront traversée, hein. 32 ont refusé. Ça va être aussi un grand moment, hein, les 64 territoires de la flamme. On a eu l'occasion d'assister au dévoiement de la flamme olympique et paralympique. Ça va être un fort moment. On va pas le faire avec sur un aviron.
Alors,
on pourrait le faire, ça. Ça serait une bonne idée.
Je réserve ma réponse parce qu'on est en train de penser.
Voyez que je sais.
Ceci
tout.
Dit, je voulais vous dire, la première relayeuse française, c'était Laure Manaudou.
Oui.
Mais qui lui a transmis la flamme olympique? C'est le champion olympique d'aviron.
Eh ben voilà.
Un grec.
Ouais,
voilà, en titre.
Grec qui est,
le champion olympique de skiff, hein, qui est le bateau individuel.
Oui. Alors, tenue qui sera donc la tenue a aussi été dévoilée, celle qui sera celle que porteront les athlètes hommes et femmes lors de la cérémonie d'ouverture. Hein, c'est la maison Berluti qui est une propriété d'LVMH, donc qui a gagné le marché. Elle vous plaît cette tenue?
Oui, je la trouve très bien. Sympa, hein. Je la trouve très bien. Je vous dirais aussi que. On a aussi une autre tenue à nous, les bénévoles.
Oui. Il faut qui est bien aussi. Hein.
Qui est très bien.
Verte, je l'ai vu. Hein.
Voilà, verte et très, très sympa.
Voilà, et puis demain, après les mascottes, les affiches, les médailles, les timbres et les tenues, demain, les anneaux olympiques seront dévoilés donc, à l'aéroport de Roissy. Voilà, donc grand événement, on y sera. Et donc, ça sera un moment important. Donc, le monde entier qui arrivera, il verra qu'il est dans une ville qui reçoit les Jeux olympiques.
C'est magnifique.
Ouais. Allez, on va... Et puis tiens, le handball, avant de revenir sur l'aviron, il y a aussi les tirages au sort concernant donc, les groupes pour le hand. Alors, on avait parlé du foot parce qu'on avait eu l'occasion d'être à cette cérémonie de tirage au sort. Alors, pour le hand, ça s'est fait à la maison du hand à Créteil. C'était en même temps que l'allumage de la flamme olympique. Donc chez les hommes, la France, le Danemark, la Norvège, la Hongrie, l'Égypte et l'Argentine s'affronteront dans cette phase de poule au premier tour, avant donc les quarts de finale. Et chez les femmes, ce sera donc la France, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil et l'Angola. Donc les quatre premiers de chaque groupe joueront ensuite les quarts de finale. Donc on va voir quand même que c'est un petit peu plus facile ce groupe chez les femmes que chez les hommes. Hein. Mais je crois que les choix ont été volontaires. On préfère jouer les matchs les plus durs au début. Ça laisse des tableaux un peu plus dégagés. C'est ce qu'ont dit donc les responsables de l'équipe de France de hand. Concernant donc votre sport, c'est un sport quand même qui avait eu beaucoup de résultats aussi, hein, votre club. Hein, on disait que c'était un des très grands clubs, mais il y a un passé, une histoire, vous avez fourni des champions et des championnes.
Oui, bien sûr. Je vais juste citer, parce que vous en avez parlé dans de l'Aviron Bayonnais, qui est un club...
Oui.
Un club d'aviron qui fait aussi du rugby.
Oui. Bon,
je taquine un peu, mais un de nos très grands athlètes, c'est Stéphane Tardieu, double médaillé paralympique à Londres et à Rio, en double avec Perle Bouge de l'aviron bayonnais.
D'accord, donc, ok.
Là,
on boucle la boucle. On a toujours dit l'aviron bayonnais, mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi ça s'appelait l'aviron bayonnais.
Parce que c'est au départ un club d'aviron.
Oui, puis après,
tout
bon,
simplement.
Ouais.
Voilà, qui a une section rugby.
Vous faites beaucoup pour l'handisport. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, je viens de vous parler de Stéphane. Stéphane a une carrière juste magnifique. Je veux dire, de mémoire, 11 titres de champion de France d'affilée. Dans sa catégorie en bateau individuel. Et donc, avec Perle, il a fait des médailles au championnat du monde, des médailles en Coupe du monde et deux médailles aux Jeux paralympiques. Voilà, pour une personne en situation de handicap, c'est extraordinaire. C'est un parcours. Et cette année, on a Laurent Cadeau. On a eu Christophe Lavigne qui a participé aux Jeux de Tokyo. Et nous a pas ramené de médailles, mais quand même. Voilà. Et puis, on a quelques athlètes qui ont eu des carrières de très haut niveau dans d'autres clubs et qui ont rejoint notre club. Donc, j'aimerais bien citer, parce que c'est un grand ami.
Faites-le, vous êtes là pour
voilà,
ça.
Dorian Mortelette, il n'était pas au club quand il a été médaillé, mais il est double médaillé. Il est médaillé à Pékin et à Londres. Et à Londres, il fait juste un exploit, c'est qu'il se médaille dans un bateau qui est magnifique. C'est ce qu'on appelle le 2 de pointe sans barreur. Et il est médaille d'argent derrière ce qu'on appelait la paire kiwi, c'est-à-dire deux rameurs néo-zélandais qui sont une légende de l'aviron.
Oui, c'est un pays qui est très pratiqué, hein, l'aviron, Nouvelle-Zélande.
Oui, c'est une puissance de l'aviron.
Oui.
Et vous, sinon, c'est quoi vos espérances pour les Jeux Olympiques en termes de médailles pour la France? Vous attendez à quoi?
C'est difficile à dire. J'aimerais bien qu'on ramène
4-5
au moins 3. Pour l'instant, on
au
a
moins 3.
Oui, pour les Jeux Olympiques. Hein, je ne parle pas des Paralympiques.
Oui, les Paralympiques, ça devrait être plus haut encore.
J'imagine, j'espère en tout cas. Mais Pour l'instant, on attend encore la régate de qualification de Lucerne. Donc, il faut savoir qu'il y a une règle en aviron. Il y a deux choses qu'il faut que les gens comprennent. Hein. Première chose, c'est que on ne qualifie pas les équipages, on qualifie les bateaux en aviron. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on peut changer les rameurs qui sont dedans.
Ah oui, d'accord. Justement, c'est une question que j'allais poser. On ne fait pas une carrière commune ensemble? Entre rameurs, on peut changer de rameur à
tout moment. Oui, on peut changer
moment,
de coéquipier.
À un moment, oui, on parlera des différentes disciplines, mais votre sport individuel, c'est aussi un sport d'équipe.
Oui. Il y a sur tous les bateaux olympiques, il y a un seul bateau individuel.
Oui,
le skiff. Hein.
Mmh. Voilà. Et si on change un élément, ça peut perturber?
Ça peut, mais ça peut aussi améliorer. Vous voyez, c'est tout le travail des techniciens.
Oui, parce que les gars, il faut qu'ils s'entendent entre eux quand même. Il faut qu'ils soient potes quand même, non?
Pas forcément. C'est mieux. Alors, il y a une légende dans l'aviron. Oui. Vous savez, il y a un athlète anglais qui est considéré comme une légende de l'aviron, c'est Steve Redgrave.
Oui.
Redgrave, c'est 5 médailles d'or olympique sur 5 Olympiades différentes.
Ouais, c'est un record de médailles fabuleux. Ouais.
Alors, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un de ses coéquipiers... Ils ne s'adressaient pas la parole. Ils étaient dans un bateau à deux. Et ils sont quand même champions olympiques. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une légende de l'aviron. Voilà. Mm-hmm. Ceci dit, il y en a d'autres qui sont des très grands potes pour toute leur vie et qui restent. Hein. J'en connais quelques-uns dans l'entourage de l'aviron. Voilà.
Oui. Alors, on va rappeler quand même que dans l'aviron, il y a plusieurs disciplines.
Alors, il y a déjà... C'est un des sports où il reste des catégories de poids, mais qui sont en train de disparaître.
Oui,
qui vont être supprimées au jeu, hein, pas au championnat du monde, à partir de 2028. Donc, les Jeux de Paris, c'est les derniers Jeux où il y aura des poids légers. Donc, il y a deux catégories, ce qu'on appelle, nous, les TC, ou les toutes catégories, et les poids légers.
D'accord.
Où il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais...
Ça veut dire qu'il faut faire le poids, il faut respecter le poids.
Il faut respecter
comme les sports de combat, sinon
exactement.
On ne peut pas...
Et il y a deux poids à respecter, la moyenne du bateau et le poids individuel des rameurs.
Ah oui.
Par exemple, pour les garçons, c'est 70 kilos de moyenne sur le bateau et aucun rameur ne peut être au-delà de 72,5.
Ah oui, donc ça veut dire une hygiène de vie incontournable. Hein.
Je vous conseille le livre de Jérémy Azou, qui est champion olympique à Rio. Et qui a écrit à la fin, parce que lui, il était poids léger, une médaille à la fin, F-A-I-N.
Ah oui, bah oui.
Voilà.
Donc, par contre, vous allez avoir une nouvelle épreuve.
Et à partir de 2028, donc, il y aura l'aviron de ce qu'on appelle, nous, le beach rowing, l'aviron de plage, si vous préférez, bon français, qui est une discipline très spectaculaire, parce que c'est sur des bateaux beaucoup plus stables, bien sûr.
Oui.
Ça se passe sur une plage, en mer, on court avec... le bateau et on finit sur un sprint. Voilà, c'est très avec un parcours avec des bouées.
D'accord.
Donc voilà, ça sera la nouveauté à partir de Los Angeles.
Donc sinon, c'est quoi les différentes disciplines de l'aviron pour le grand public?
Alors l'aviron se pratique sur des bateaux, bien sûr, et les bateaux sont de 1, 2, 4 ou 8 personnes.
Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus.
Voilà. Il y a des petites histoires. On a fait venir un bateau à 24, mais ce n'est pas un bateau de compétition. C'est juste un peu pour montrer au public. Donc, sur tous ces bateaux-là, vous pouvez, sauf bien sûr le bateau individuel, vous pouvez avoir soit un aviron par rameur, soit deux avirons par rameur.
D'accord, donc, ça veut dire que c'est sur les côtés.
Voilà,
c'est simple.
Si vous en avez un, on appelle ça ramé en pointe. Si vous en avez deux, on appelle ça ramé en couple. Voilà.
D'accord.
Et bien sûr, il y a les catégories poids légers et les catégories TC. Et en France, et ça va se généraliser, j'espère, dans le monde, on est un sport mixte.
Oui.
On a un championnat de France, vous avez un 8 mixte, un 4 mixte, un double mixte. Donc ça, c'est très, très bien.
Oui, parce que les femmes, elles vont aussi vite que les hommes, finalement. C'est pas...
Un bateau féminin va un peu moins vite qu'un bateau masculin, mais on peut ramer ensemble, hommes et femmes. Ça ne pose pas de problème. Et c'est même très intéressant de ramer parce qu'on a... une approche un peu différente. Ça dépend bien sûr des rameurs. Hein. On ne peut pas faire des généralités, mais en moyenne, je dirais qu'il y a une approche un peu différente, peut-être un petit peu plus technique pour les filles et qui peut être très intéressante en termes de sport.
Et, Et ça, on se spécialise, on décide de faire que 2, que 4, que 8. Ou alors on peut passer d'une embarcation à une autre.
On peut très facilement passer d'une embarcation à une autre. On peut on fait souvent en début de saison. Nous, on vient d'avoir il y a 3 semaines les championnats de bateaux courts. Donc c'est le bateau individuel et le bateau à 2 avec un aviron par personne. Et on va passer en saison bateau long et les rameurs sont les mêmes. Contrairement à l'escrime, par exemple, où vous avez jamais vu
quelqu'un qui fait fleuret, ça on est spécialisé là.
Voilà, à l'aviron ça change.
Et alors, SCUF ou double SCUF, expliquez un peu ce que c'est, barreur ou sans barreur. Moi, je sais, mais bon.
Voilà. Alors,
le grand public, pas forcément.
Dans les bateaux olympiques, il ne reste qu'un bateau avec un barreur. Le barreur, c'est donc la personne qui dirige le bateau. Donc, la caractéristique, comme je disais tout à l'heure en rigolant,
c'est le capitaine d'équipe.
C'est qu'on tourne le dos au sens de la marche.
Oui, oui.
Et donc, du coup, parfois, il faut un barreur.
Ouais.
Alors, le barreur a le double rôle, le rôle de diriger l'embarcation. Et le rôle de gérer l'effort de son équipe. Je ne sais pas si vous avez vu l'Oxford Cambridge le week-end. Il y a 2 week-ends, il y a un rameur qui s'est effondré.
Ah oui, oui, oui.
Voilà. Donc, il y a un rôle important. Et ensuite, donc les bateaux olympiques sont des bateaux qui ont des contraintes de poids. Donc, il y a par exemple sur un bateau individuel, il ne peut pas peser moins de 14 kilos. Voilà, ça c'est une règle internationale. On veut éviter que les pays construisent un bateau qui durerait qu'une course et qui aurait un avantage. Donc là, c'est vraiment, on essaye de mettre tous les rameurs dans des conditions similaires. En aviron, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont interdites. Par exemple, tout ce qui est matériel qui se dépose sur la coque pour favoriser la glisse. Donc rien ne peut rester sur la coque. Donc il y a le poids qui est... Et puis chaque nation qui utilise un bateau, le bateau doit être accessible à toutes les nations. Donc si par exemple la France trouve une innovation technologique géniale qui permet d'aller plus vite, il faut que le bateau soit disponible à la vente pour les autres nations.
Ah,
ça c'est obligatoire en avion, c'est la règle internationale.
Et il n'y a pas de cadre de page dans votre sport?
C'est un
sport dur quand même.
Il y en a certainement. Moi, je n'en ai pas connaissance
Dans les grandes compétitions, il n'y a jamais eu de grands scandales.
Non,
il n'y a jamais eu des contrôles antidopage.
Non, il n'y a jamais eu de grands scandales. Il y a de temps à autre des contrôles positifs. Mais bon, non, jamais de grands scandales, heureusement. Parce que ce n'est pas bon pour le sport en général.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et donc, une carrière, on disait qu'on peut faire ce sport très longtemps, mais sur le plan loisir. Sinon, à haut niveau, une carrière, c'est jusqu'à 30, 35 ans.
Alors, c'est un sport à maturité tardive.
Ouais,
Oui, parce que les grands champions ils ont la vingtaine en général bien avancée. Et on peut rester. Alors, bon, l'exemple, c'est Steve Redgrave, à 40 ans, médaillé d'or olympique. On a quelques exemples en France de grande longévité de rameurs à bon niveau. Et puis, bien sûr, on parle beaucoup de Redgrave, mais on oublie souvent qu'il y a une femme qui a plus de médailles que Redgrave.
Oui.
5 médailles d'or et 2 d'argent et 2 ou 3 de bronze. C'est Elisabeth Alipa, une Roumaine.
Une Roumaine.
Et qui a aussi participé de mémoire à 6 Olympiades. Donc, vous voyez la longévité qu'on peut avoir dans ce sport. C'est un sport vraiment...
Et vous allez organiser quelle compétition bientôt? Est-ce que vous travaillez avec les écoles d'abord, les établissements scolaires, les écoles? Vous œuvrez pour des œuvres caritatives, par exemple?
Alors, au niveau des écoles, on travaille, ça fait partie de notre plan de développement du club et des accords qu'on a avec le département des Hauts-de-Seine et avec la région Île-de-France. Donc, on fait ramer des collèges et des lycées. On a fait par le passé des écoles primaires. À mon grand regret, on en fait moins. Et alors, vous parlez de caritatif. J'aimerais pas appeler ça caritatif.
Mais par exemple, quand il y a le Téléthon, on peut venir s'initier.
Bien sûr. Quand il y a tous les ans au Téléthon, on fait...
On peut venir s'initier.
On fait même des défis.
Voilà.
Il y a 2 ans, moi-même, le président a donné de son corps. Parce
24
que
heures toute la nuit.
J'ai fait un marathon sur rameur, sur machine à ramer.
Trois
heures.
Oui, parce que il faut le dire, c'est un sport qu'on peut pratiquer en indoor aussi.
Il y a un championnat indoor au mois de janvier.
À Charletti, il y a eu, et puis Coubertin. Hein.
Ouais, cette année, c'était Charletti, l'année d'avant à Coubertin. Donc, c'est un championnat très intéressant.
C'est complémentaire, c'est les mêmes qu'ils font ou c'est une autre race de rameurs et rameuses?
C'est les mêmes en termes d'aviron, mais il y a toute une population qui vient de plus en plus à nos championnats d'indoor, c'est les gens qui viennent du crossfit.
Ah oui, ah oui.
Ouais. Il y a beaucoup de crossfitters maintenant qui s'inscrivent juste pour venir au championnat indoor. Il y en a qui font des très belles performances. Mm-hmm. Nous, on dit qu'ils ne rament pas très bien, mais ils sont efficaces.
D'accord. Voilà. Mm-hmm. Donc, sinon, vous organisez quoi d'autre ?
Alors, on organise, donc il y a bien sûr toute cette activité autour du scolaire, mais il y a peut-être deux choses que je voudrais citer. Mm-hmm. On a depuis 6 ans ce qu'on appelle une activité de sport adapté.
Ah oui.
Ouais. Alors, le sport adapté, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut peut-être que j'explique.
Oui, par rapport au sport handi, c'est quoi la différence ?
Le sport adapté s'adresse à des personnes en situation de handicap mental. Donc, on a commencé avec du handicap, avec une partenariat avec une association qui s'appelle Autistes sans frontières 92. Et depuis, on est plein tout le temps. Ça veut dire qu'il y a une demande énorme. Alors, nous, c'est un peu compliqué parce qu'il faut beaucoup d'encadrement. Donc, on ne peut pas aller au-delà. On a 25 personnes actuellement. On permet à des jeunes en situation de handicap mental, de jeunes et moins jeunes, de venir ramer, éventuellement accompagnés de leur famille. Et donc, ça, c'est une grande fierté du club aussi. Là, on ne cherche pas du tout la performance. On ne cherche pas... Voilà. Et ensuite, je vous dirais qu'en termes de ce qu'on organise aussi, le club organise bien sûr la traversée de Paris dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire au mois de septembre 1300 rameurs l'année dernière, mais on participe au niveau de l'Île-de-France à toutes les régates qui sont organisées, que ce soit les championnats, ce qu'on appelle les championnats de zone, que ce soit des championnats de France quand ils ont lieu en Île-de-France, etc. Donc là on aura bientôt une grande régate le week-end du 4 mai à Mantes-la-Jolie.
Ouais, c'est un grand bassin bien connu, c'est un des clubs importants aussi.
Oui, voilà. Mm-hmm. Et donc là, on aura une grande régate où moi-même, je vais être au chrono et je vais
pour les jeux.
Et je vais ramer avec un jeune autiste.
Ah, c'est bien.
Au même
temps.
Vous voyez, on double.
C'est bien. Allez, la deuxième pause musicale, Indochine, l'aventurier. Et ensuite, on va parler de foot. Vous allez nous accompagner dans ce commentaire.
Bien sûr.
Voilà, allez, on y va. L'aventurier, Indochine. We'll be right back. Bon, Pedro, pour faire le lien avec le ballon rond, qu'est-ce que j'ai appris ? Vous aviez un descendant qui a joué à Benfica ?
Oui, mon grand-père qui a été joueur de l'équipe 1 de Benfica dans les années 30, hein, ça date. Okay. À l'époque, ce n'était même pas professionnel.
Ouais. Donc vous êtes supporter de Benfica, non ?
Un peu, oui.
Vous aussi un petit peu déprime après cette défaite ? Non, voilà. Je blague. Voilà. Alors, on va saluer notre ami Stéphane qui est en studio. Bonsoir Stéphane, ça va ?
Bonsoir, ça va très bien. Ouais.
Quelle semaine Stéphane, quelle semaine. Hein,
grosse semaine.
On disait qu'effectivement, on allait donc vivre une semaine de folie. Ça l'a été. Après, une autre précédente semaine de folie. Et le Paris Saint-Germain l'a fait. Le Paris Saint-Germain donc, s'est imposé 4-1 à Barcelone après avoir été battu 3-2 au match aller. J'ai envie de dire c'est un des matchs référents du PSG dans l'histoire dans son histoire européenne.
Je sais pas si j'irai.
Je
veux
pas dire que c'est le match référence, mais ça fait partie des meilleurs matchs.
Donc ça fait partie des matchs références.
Non, des matchs références, il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. Ouais. Et puis en plus, il y a quand même eu des concours de circonstances, un concours de circonstances favorables au Paris Saint-Germain. Donc en tout cas, c'est un match qui fera date parce que on en a un peu marre de sur l'histoire européenne du Paris Saint-Germain. En tout cas, ces 10 dernières années, ça a été marqué par pas mal de contre-performances. Bien souvent, même si on voulait pas trop non plus faire les pleureuses à force et tout, mais bien souvent aussi marqué justement par ce type d'événement. Je pense au Real Madrid avec ce but, cette charge un peu, on va dire, contestable. Je ne dis pas qu'elle devait y être, mais en tout cas un peu contestable. Plein de petites choses comme ça. Le pénalty contre Manchester United au Parc à la dernière minute. C'est vraiment des événements défavorables. Là, il s'est passé que non seulement l'équipe, c'est vrai, a bien joué.
Oui, parce qu'on en parlait la semaine dernière. Par moment, Paris Saint-Germain a des trous dans un match. Hein.
Ouais.
Ils prennent des buts comme par exemple contre le Barça match aller. Il y a des trous comme ça, défensifs.
Ou le match retour, le Barça match retour.
Ça a été un match parfait pour le PSG au match retour, il n'y a pas de trou.
Bah oui, il y en a eu un quand même, parce qu'on prend le but, le premier but.
Contre le cours du jeu, mais enfin...
Que prend le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est vrai que...
L'équipe a continué sur sa
lancée. Ce qui est surtout important dans l'histoire du Paris Saint-Germain au niveau des Coupes d'Europe, ce que je pense qui est très important à souligner, ça a été l'approche de ce match, l'environnement autour de ce match. C'est-à-dire qu'on a, pour une fois, on va dire... On l'a peut-être eu un peu dans le passé, mais même par exemple un coach comme Laurent Blanc qui passe aujourd'hui pour être quasiment le meilleur, celui qui a produit le plus de jeux avec son équipe sous les RQSI, même lui ne dégageait pas cette sérénité et tout avant un match comme ça. Et c'est ça qui est surtout je pense moi notable quoi. Alors peut-être ça a effectivement mobilisé les joueurs, motivé les joueurs, ça les a peut-être poussés encore plus. Et puis on sait jamais, bon, il y a eu effectivement des faits de jeu contraires, mais d'un autre côté on sait jamais, on sait pas non plus ce qui serait passé à 11 contre 11 jusqu'à la fin.
Alors, Alexandre, toi qui étais au stade, qui est remis de la déprime, Barcelone a complètement volé en éclat devant donc, le Paris Saint-Germain, 4-1. Tu en penses quoi ? Peut-être un petit peu trop tendre encore cette équipe de Barcelone ?
Non, mais c'est beaucoup de naïveté.
Oui, donc trop tendre. Oui,
trop tendre, beaucoup de naïveté. Puis, j'étais d'accord avec la déclaration de Thierry Henry qui disait qu'il y a eu un peu de panique, je pense, et à l'image de Xavi qui s'est encore une fois fait expulser.
Donc, on voit qu'à un moment ils sont sortis du match complètement.
Il a pas suggéré sa frustration, mais
d'ailleurs, comme a dit Stéphane, déjà le défenseur.
Voilà, c'est ça, puis, justement.
Et après,
comme a dit Stéphane, il y a eu un concours de circonstances et les 10 premières minutes étaient pour Paris. Ensuite, il y a un but contre le cours du jeu, comme tu l'as rappelé. Puis le Barça commençait à reprendre du poil de la bête et à bien jouer. Et puis voilà, il y a eu l'expulsion idiote de Araujo qui a fait basculer le match, et puis Paris qui a bien géré sans paniquer, qui a marqué logiquement les buts.
Voilà, donc le Paris Saint-Germain, Stéphane, qui va jouer. Alors là, on s'était tous plantés, l'équipe de Dortmund, parce qu'on ne les voyait pas déjà sortir en phase de poule, et le Dortmund, ils sont en demi-finale, puisqu'ils ont été battus donc 2-1 par l'Atlético de Madrid au match aller. Ils ont gagné 4-2 le match retour.
Oui, tout à fait. Bon, ça a été un
match... Donc ça sera un Dortmund-PSG, les retrouvailles.
C'était un match aussi avec des rebondissements et tout. Oui. Le match retour, ça n'a pas été si facile que le score le laisse paraître. Mais c'est vrai que ça va être une belle revanche et on peut faire confiance à tous les médias français pour transformer Dortmund comme la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein. Mais sinon, normalement, c'est vrai que sur le papier, si on est neutre, on en parlait avant, si on est neutre, c'est le Paris Saint-Germain est légèrement favori. Bien qu'en demi-finale, oui, donner un favori en demi-finale, c'est un peu...
Alors, ce que certains oublient, c'est qu'il y a toujours une équipe un petit peu surprise dans une Ligue des Champions. On se rappelle de Villarreal, il y a 2 ans, qui avait été en demi-finale. Tottenham, même une année qui était arrivée comme ça en finale. Et l'année d'avant aussi l'Ajax, on se rappelle qu'il avait été en demi-finale. Il y a toujours un petit peu une équipe qui joue parfois les troubles faits.
Ouais, tout à fait. Bah voilà, maintenant aussi.
L'équipe d'une saison, quoi.
Bah, comme on le dit, c'est aussi des concours de circonstances, ouais, qui font que ça arrive comme ça. Alors maintenant, après, tout va se jouer, effectivement, je pense, dans l'approche des matchs, bah, quand on a coutume de dire dans les petits détails, mais ouais, dans l'approche des matchs, dans la gestion. Et pour l'instant, en tout cas, au Paris Saint-Germain, on est bien, mais rien ne met à l'abri le Paris Saint-Germain, comme rien ne met à l'abri Dortmund, comme c'était le cas pour Barcelone, de ce petit grain de sable qui va rentrer.
Et c'était le cas du PSG les années précédentes sur beaucoup de matchs. Hein.
Donc ça nous collait un petit peu.
La gestion de l'événement, quoi. Voilà, c'est ça.
Ça a collé un peu à la bourre. De toute façon, dès le début, quand il est arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dès le premier match, il s'était fait certes critiquer après le match par la déroute de Paris à Newcastle, mais avant même le match, il avait dit, il y a une pression, on dit, faut la gagner, faut aller loin, on veut jamais, faut la jouer tranquille et tout. Et tout de suite, il a complètement désacralisé la chose, Luis Enrique. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un atout, un énorme atout pour le Paris Saint-Germain.
Alors, l'autre demi-finale, eh ben, ça opposera, c'est un classique, Real de Madrid contre le Bayern de Munich, Real Madrid de Manchester City, 1-1. Donc, après prolongation, on va rappeler qu'il y avait eu un 3-3 au match aller, 4-3 pour le Real au tir au but. Ça n'a pas été l'équipe la plus offensive, hein, qui s'est imposée. Et puis, dans l'autre match, grosse déception pour Darius, hein, qui n'est pas ce soir aussi. Eh bien, Arsenal-Bayern 2-2 et victoire du Bayern de Munich devant Arsenal 1-0. Une équipe d'Arsenal qui n'arrive jamais à franchir un palier.
Bah, jamais à franchir un palier, ouais, c'est un peu... Oui, peut-être, mais d'un
quand
autre côté...
Quand on regarde son palmarès, une seule finale de Ligue des Champions, et
oui,
puis dernier
ça,
titre en 2004.
Moi, ce genre d'analyse... Ah, ce genre d'analyse me gêne un peu, parce que ça fait penser aussi un peu aux analyses souvent un peu trop rapides qu'on fait ou qu'on a fait longtemps sur le Paris Saint-Germain. Je veux dire, bon, Arsenal, ça faisait, je crois, 14 ans qu'ils n'avaient pas joué un quart de finale de...
14 ans d'absence,
ouais,
c'est énorme.
De Ligue des Champions, ils jouent, ils font un match nul chez eux, ils perdent 1-0 à Munich,
c'est pas ridicule.
Ouais, ils sont loin d'être ridicules.
Ah non, on a pas dit qu'ils sont ridicules.
Ils font leur match. Bon, maintenant, c'est vrai que pour arriver à ce stade de la compétition, il faut beaucoup de choses. Même Mikel Arteta, par exemple, je m'en offusquais, moi, l'année dernière. Je ne comprenais pas pour ça, je n'ai toujours pas compris, d'ailleurs, pour ça, le choix du Paris Saint-Germain d'avoir pris la saison dernière Galtier. Parce qu'il n'avait joué, je crois, 5 matchs de Ligue des Champions, quoi. Il était 5 matchs de Ligue des Champions sur le banc. Et je pense que la présence de coachs comme Luis Enrique sur le banc, c'est assez énorme. Et c'est aussi, je reviens à Dortmund, c'est aussi, je pense, qui peut faire la différence, en tout cas le plus du Paris Saint-Germain contre une équipe comme Dortmund.
Et Real Manchester City, donc, ça a été vraiment très ouvert. 3-3 au match aller, 1-1 là. Le Real qui s'impose au tir au but, même si ce n'est pas l'équipe la plus offensive qui s'est imposée.
Ouais, voilà, ce n'est pas forcément même la meilleure équipe. Quoi que ça dépend de ce que ça veut dire, la meilleure équipe.
Hein, c'est celle qui gagne, arrive,
gagne,
enfin, bon.
Gagne. Et puis, ce n'était pas non plus laid dans le sens où ce qu'ils ont fait, ils l'ont très bien fait. Oui, c'est un modèle de défense et de...
C'est comme ça qu'on gagne aussi des Coupes d'Europe. Et
il faut le faire, il faut savoir le faire. Et puis, ils l'ont bien fait.
Alexandre, tu as un petit mot à dire sur ces quarts de finale? Autre que la défaite de Barcelone, naturellement.
Non, mais ça fait plaisir de voir de tels matchs, parce que finalement, les 8 matchs étaient vraiment bien. Ouais.
Bien que j'ai trouvé un petit peu moins bien la deuxième semaine. Hein.
Un petit
le
peu
Manchester
moins bien.
Real, c'est moins beau que le match aller.
Parce qu'il y a forcément un peu plus de calcul, de peur des deux côtés. Mais vu que c'est la dernière fois qu'il y a une telle formule en Ligue des Champions... Ouais. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de s'être régalé autant, en tout cas.
Alors, Marseille qui l'a fait aussi, hein, dans la douleur, dans la difficulté, mais les Marseillais l'ont fait. Ils ont été battus 2-1 à Benfica au match aller. Ils ont gagné 1-0 après prolongation. Et j'allais dire, ils ont enfin vaincu le signe indien pour les clubs français, 4-2 au tir au but. C'est la première fois depuis au moins 10 matchs qu'un club français n'avait pas gagné au tir au but entre les sélections hommes, femmes et puis les clubs. On commençait à se poser des questions. Donc Marseille l'a fait, ils vont poursuivre l'aventure contre Bergame en demi-finale.
Voilà, puis alors c'est un
peu... Elle arrive à se transcender, cette équipe, c'est incroyable en Coupe d'Europe.
Bah, oui, transformée dans le sens où...
Elle renverse toujours le cours des événements en sa faveur, oui, même si c'est laborieux.
Elle a un peu plus de chance ou d'atouts pour elle qu'elle en a dans
poussée par son public
dans les autres mains, par son public, tout à fait, parce que le Paris Saint-Germain l'Olympique de Marseille contre Benfica n'a pas non plus forcément fait un super match.
Non, non, mais...
Maintenant ils ont eu l'âme qu'il fallait, les mots qu'il fallait,
c'est ça,
et puis ils ont eu aussi, comme pour le Paris Saint-Germain peut-être aussi, ça va être un petit peu moins compliqué, on va dire, de jouer Dortmund que de jouer que ça avait été l'Atlético. Eux, c'est encore pire pour Paris pour l'OM qui évite Liverpool aussi, quoi. Oui. Donc on leur donnait pas cher de leur chance avec Liverpool. Pour moi, il y a aucune raison de faire de l'Olympique de Marseille un outsider dans ce match contre Bergame.
Alors justement, ils joueront Bergame qui avait gagné à Liverpool 3-0 et qui a quand même été battu au match retour 1-0, mais sans conséquence. Ça me permet de dire que les clubs anglais sont passés à la trappe quand même. Liverpool, Arsenal, Manchester City, ce sont les clubs anglais qui sont les grands perdants de ces quarts de finale de Coupe d'Europe.
Et y a pas
comme
que
quoi,
ça.
Le championnat anglais qui a le plus relevé, ça laisse des forces. Hein. Ça laisse des forces quand même.
Et
Aston Villa qui a failli passer à la trappe.
Oui, et puis Newcastle et Manchester United qui sont passés à la trappe dès la phase de groupe.
Oui, mais, ça,
c'est quand même important si on regarde.
Mais là, il n'y a plus qu'un seul club anglais du coup.
Il n'y a plus qu'un seul club anglais. Moi, je pense que c'est. On peut y voir un petit peu une diminution de la souveraineté de la Première Ligue sur l'Europe à partir du moment où ils ont des clubs qui jouent le jeu à fond. Et on le voit notamment, ça a toujours été le cas bien sûr pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais on voit avec Marseille et Lille que c'est des, comme tu le disais Philippe, c'est des clubs qui ont élevé leur niveau de jeu, leur niveau d'exigence, leur ambition pour essayer d'aller le plus loin possible. Et bien à ce moment-là, on est peut-être un peu plus difficile à battre, quoi.
Alors, l'autre demi-finale opposera, attention, le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, à l'AS Roma. L'AS Roma qui a éliminé le Milan AC, après avoir gagné 1-0, ils ont gagné aussi 2-1. Et puis, Leverkusen, ils ont battu West Ham 2-0 et ils ont fait match nul à partout. Et puis, Lille qui a été battu de pas grand-chose, les Lillois qui avaient gagné 2-1 le match aller. Ils ont été battus 2-1 après prolongation, mais ils s'inclinent 4-3. C'est dommage, c'est passé pas loin.
Ouais, ça passait pas loin, mais ça c'est l'apprentissage aussi de ce type de match sur les joueurs qui étaient au sein de cette équipe. C'est vrai que on va mettre la séance de tir au but à part, hein, parce que je ne vais pas dire que c'est de la loterie, mais en tout cas c'est pas
c'est une partie de loterie, c'est pas complètement
à part. Mais c'est surtout dans le match, quoi, que je pense que Lille avait
ils ont les 2-0 en plus.
Ouais, voilà, et à Birmingham, ils auraient dû, ils pouvaient en tout cas ramener un meilleur résultat que la défaite de 1. Ils pouvaient ne pas perdre en Angleterre. Et puis au match retour, effectivement, ils prennent un but à 3 minutes de la fin. Et surtout avant, ils ont eu l'occasion, quand ils ont eu quelques occasions aussi pour en mettre d'autres. Donc c'est vrai que c'est très très cruel. En tout cas, moi je pense sur les deux matchs qu'on n'a absolument pas vu la domination annoncée du quatrième de la Première Ligue contre le quatrième de la Ligue 1. Quoi.
Donc Aston Villa qui jouera Olympiakos qui s'est aussi imposé au tir au but 3-2 donc pour Olympiakos. Il y avait eu 1-0 après prolongation et 3-2 donc de la séance de tir au but. Ça a été un match chaud. À noter que la Fiorentina aussi s'est qualifiée, la Fiorentina contre Victoria Pilsen 0-0 après une victoire à l'aller 2-0, et puis Bruges a battu le PAOK Salonique 1-0 après une victoire à l'aller 2-0. Donc on aura Aston Villa, Olympiakos et Fiorentina Bruges en demi-finale de Ligue Europa Conférence. Le championnat, 30e journée, Stéphane, est-ce qu'on peut considérer que le Paris Saint-Germain, après sa nette victoire contre Lyon 4-1 hier soir, s'oriente vers un titre de champion de France, probablement mercredi à Lorient ?
Bien sûr, probablement mercredi à Lorient.
Ils ont 11 points d'avance. Hein.
Oui, voilà, ils ont 11 points d'avance. Il leur manque 4 points. Ouais. Jusqu'à la fin de la saison, il leur manque 4 points à Paris. Donc, ça serait quand même étonnant qu'ils ne prennent pas 4 points en 5.
Je veux dire, ça peut être déjà dès la prochaine journée.
Ça peut être dès la prochaine journée. Je n'aurais pas forcément dit ça avant-hier, parce qu'effectivement, je pensais que Luis Enrique allait plus faire tourner beaucoup sur le match de Lorient que sur le match de Lyon. Il a fait tourner beaucoup sur le match de Lyon, donc on peut penser qu'il va jouer avec Mendes, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé... même s'il va faire encore tourner, certainement, mais à Lorient. Donc, c'est vrai que je vois mal Lorient arriver à faire à tenir tête au Paris Saint-Germain. Puis Monaco-Lille, effectivement, hein, c'est pas gagné du tout pour Monaco. Lille, c'est une équipe redoutable.
Alors, les autres résultats, ça avait commencé par une nette victoire de Nice devant Lorient 3-0. Rennes qui est allé gagner à Nantes 3-0. Une petite bouffée d'oxygène pour Rennes. Lens-Clermont, victoire de Lens 1-0. Victoire de Lille devant Strasbourg 1-0. Victoire de Montpellier qui permet à Montpellier de se maintenir face à une équipe qui a du mal à finir la fin de saison, Reims 2-1. Autre équipe qui a du mal à finir, un petit coup de mou, c'est Brest battu à domicile par Monaco 2-0 après sa défaite la semaine dernière 4-3 face à Lyon. Victoire par contre de Metz qui va peut-être sauver les Messins au Havre 1-0 et nul donc entre Paris Saint-Germain et Marseille de partout. Le PSG, je l'ai dit, en tête 66 points devant Monaco 2e 55, 3e Brest 53, 4e Lille 47, 5e Nice également 47 et 6e Lens 46. Ça c'est pour les équipes qui peuvent jouer l'Europe. Et puis pour ceux qui se battent pour le maintien et la relégation, on a Nantes 14e avec 31 points, 15e Metz 29 points, 16e Le Havre 28 points, 17e Lorient 26 points et 18e Clermont 22.
Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est hyper chaud. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une sorte aussi, quand même, quelque part, pour le cas, en partie d'un inversement des tendances. Metz qui n'avait pas mis un pied devant l'autre, qui était vraiment. Qui avait joué, je crois, je me rappelle du match au Vélodrome, je crois, leur défaite au Vélodrome. Ou je ne sais plus quel match j'avais vu, c'est peut-être pas celui-là. On disait, mais ils n'ont rien à foutre en Ligue 1, c'est une équipe de Ligue 2, quoi. Et puis après, là, il semblerait que là, ils soient partis, et ça ne sent pas bon pour Le Havre. Hein. Le Havre va direct vers les barres. Mais Nantes aussi, ça ne sent pas bon non plus pour Nantes. Hein. Donc, Nantes qui fait...
Lorient aussi, hein. Ouais, surtout Lorient, s'ils jouent le PSG en plus mercredi.
Ouais, ils jouent le PSG mercredi, mais c'est un match en plus, puisque, quoi, en plus. Puisqu'ils n'ont pas, pas joué. C'est un match en retard, je veux dire.
Oui, c'est ça, c'est un match en retard. Donc,
c'est pas ça qui va leur faire perdre
des points. Non, mais enfin, il faudrait qu'ils prennent au moins un point contre Paris. Il faudrait qu'ils fassent une surprise à Lorient partout.
Ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Mais bon, il suffit, la prochaine journée, s'ils gagnent et que Nantes perd, ça peut changer vite fait. Hein.
Allez, 33e journée en Ligue 2. Il y aura une autre journée qui sera jouée demain soir. On va rappeler la victoire de Rodez devant Auxerre 2-0. Celle d'Angers devant 3-2-1. Saint-Etienne qui bat Bordeaux. Ça, c'était les affiches.
Un match exceptionnel.
Pour les anciens comme nous, donc 2-1. Le Paris FC qui bat Valenciennes 2-1. Victoire de Pau devant Laval 3-0. Et Bastia qui est allé gagner à Guingamp 1-0. Donc Auxerre en tête avec 61 points. Devant Angers 2e 58. 3e Saint-Etienne 57. 4e PFC 52. Et 5e Rodez et Pau avec 50 points. Ça veut dire que le PFC et Saint-Etienne, Stéphane, on en parlait la semaine dernière, ils sont dans les play-offs. Ce qui était aussi incroyable en début de saison. Hein.
Ils sont pour l'instant. Oui, c'est incroyable, disons, parce que Saint-Etienne a un peu raté son début de saison. Oui. Normalement, ça fait quelques temps que les supporters, en tout cas, espèrent davantage voir Saint-Etienne monter directement plutôt que de devoir jouer les play-offs. Mais c'est vrai que puis quand on voit ce qui est arrivé, ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard samedi soir, là, c'est exceptionnel, quoi. Ils étaient menés 1-0 à la 90e minute et ils ont gagné 2-1. Quoi. Donc c'est un truc de fou. Et on a, par exemple, dès demain, on a un premier petit match de barrage, puisqu'on a un match Rodez-Paris FC.
Paris FC, ils ont une fin de calendrier, le Paris FC, assez difficile. Hein. Ouais. Il y a quelques gros morceaux.
Mais Rodez en avait un aussi très compliqué, puisqu'ils avaient Caen, et notamment là, on est à Caen et Auxerre, et le Paris FC maintenant. Mm-hmm. Donc, si jamais, par exemple, demain, si le Paris FC gagne demain, par exemple, à l'extérieur, ils sont pratiquement... pas sûrs, mais ils sont, en tout cas, ils sont bien partis pour. Et puis il y a une équipe qui s'écroule, c'est Laval. Quoi,
oui,
qui
Laval
complètement,
qui a eu, ouais,
complètement.
Ouais, ouais,
ils sont septième,
ouais,
là.
Ils vont rater les playoffs et puis.
Et
voilà.
Ils vont à Auxerre le prochain match.
Ouais, ouais. Et... fin de saison difficile. Hein.
Ouais, ça va être difficile pour eux, mais bon, ça représente peut-être quand même un peu le. C'est plus, ouais. C'est plus normal, oui. On revient un peu dans les clous quoi, avec ces équipes-là. Bien que Rodez fait vraiment Paris FC, Saint-Etienne, Angers, Auxerre, c'était attendu à peu près à ce niveau-là.
Il y a trois points seulement entre Rodez et Pipeau et Guingamp qui est 9e. Donc voilà, donc, c'est pas,
non,
ça se joue à pas grand-chose.
Il
va rester 5 journées et là aussi c'est serré. Hein. Ouais.
Rodez perd, par exemple, Rodez est 5e je crois. Mm-hmm. Ils perdent contre le Paris FC demain. Ouais. Ils peuvent se retrouver 7e ou 8e. Hein, donc c'est très chaud. Quoi.
Et en bas de classement, donc 17e, 3 et Concarneau, 35 points, ce qui paraît incroyable. 3 qui va descendre en national. 19e, Quevilly-Rouen, 33 points. Et 20e et dernier, donc Valenciennes avec 17 points. Annecy sont juste devant. Ils sont 16e avec 39 points. Donc ils ont quand même une petite marge, 4 points de plus que 3 et Concarneau.
Ouais. Mais bon, là, c'est pareil. On retrouve pas de surprise, à part 3 quand même. 3, c'est quand même une énorme surprise. Ouais. C'est même,
ils vont passer de la première à au national en 2 ans. Quoi.
C'est une équipe qui appartient au City Group, quoi, donc au propriétaire de Manchester City. Et c'est difficile de comprendre comment ils peuvent en arriver là. Hein, parce que, je veux dire, c'est même pas une équipe qui a des super joueurs, mais qui sous-performe et tout. C'est une équipe qui... bon, qui a certes quelques bons joueurs, mais qui c'est incroyable de retrouver 3 à ce niveau du championnat, quoi.
Allez, en national, c'est fait pour le restart, donc 30e journée, il reste 4 journées comme en Ligue 1. Malgré sa défaite 2-0 devant le Dijon, eh bien le restart, ça y est, monte et retrouvera donc la Ligue 2 la saison prochaine avec 5 en tête avec 62 points. On va noter que Martigues et Cholet ont fait match nul 2 partout et que Versailles est allé gagner à Épinal 1-0. Ce soir, il y a le match Sochaux-Niort. Niort qui est justement deuxième à 10 points avec 52 points. Troisième Martigues, 50 points. Quant à Versailles, ils sont dans le ventre mou, hein, comme pratiquement toute la saison. Donc, 8e avec 42 points. En National 2, la 23e journée, il reste 3 journées. Eh ben, le Paris Atlético toujours en course pour remonter en National. Large victoire devant Libourne, 3-0. Ils sont deuxième à 1 point seulement du leader, donc La Roche-sur-Yon. 42 points pour La Roche-sur-Yon et 41 pour le Paris Atlético. Et puis, Stéphane, il y aura peut-être un doublé aussi, homme-femme. Pour le Paris Saint-Germain. Puisqu'en demi-finale de Ligue des Champions, on a eu un très beau match entre Lyon et le PSG. Victoire 3-2 donc de Lyon, alors que dans l'autre demi-finale, Chelsea gagnait à Barcelone 1-0. Donc, ça nous promet 2 belles affiches de match retour la semaine prochaine, avec PSG-Lyon au Parc à 16h dimanche prochain.
Oui, tout à fait. Ouais. Et alors que PSG menait 2-0 quand même à 10 minutes, je crois, ou un quart d'heure de la fin à Lyon. Donc
Lyon avait ouvert la marque. Hein.
Non, il menait 2-0.
C'était l'inverse. Oui,
il menait 2-0. Paris menait 2-0.
C'est ça. Oui, c'est 2-0. Oui, autant pour moi. Et c'est Lyon qui, en 6 minutes, ils prennent 3 buts en 6 minutes.
Donc c'est dommage parce que Lyon, c'est quand même une grosse équipe. C'est quand même les favoris du match. Donc ça va être
3 buts en 6 minutes pour les Lyonnais.
Ça va être compliqué, peut-être plus compliqué pour les Parisiennes. Mais bon, pourquoi pas, effectivement, aller en finale. Je pense que Barcelone va à mon avis, Barcelone va
se racheter de sa déconvenue.
Va se racheter de sa déconvenue. Mm-hmm. Et ça, à mon avis, il y a de grandes chances que ça soit une finale Lyon-Barcelone. Je pense, mais bon.
Et puis, il y avait un match en retard qu'il fallait jouer en championnat. Ben, Saint-Etienne est allé gagner au Paris FC, donc 1-0. Donc, pour l'instant, Lyon en tête avec 58 points, devant le PSG, deuxième 49, troisième PFC 41 et quatrième Reims 31. C'est à peu près les équipes qu'on verra en play-off, avec peut-être Fleury Mirogis qui est cinquième avec 30 points. Donc, ça se joue entre Fleury et Reims pour le play-off. Ouais.
Voilà, c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière. C'est les points négatifs des playoffs, il y a des points positifs qui font que, par exemple, Lyon n'est pas champion de France. Mais par contre, d'un autre côté, Paris, Lyon est assuré de terminer premier. Le PSG est assuré de terminer deuxième. Les troisièmes sont assurés de terminer troisième.
Paris FC.
Et il n'y a plus que...
Reims ou Fleury.
Voilà, qu'un enjeu quoi, entre le quatrième et le cinquième.
Je voudrais que Alexandre me parle un tout petit peu du Classico espagnol. 3-2, Alexandre.
Barcelone qui...
Pour le Real, ça n'a pas été une bonne semaine pour le Barça.
Une très mauvaise semaine pour l'FC Barcelone, alors qu'une bonne semaine justement pour le Real. Mais le match a été notamment marqué par des faits de jeu et des faits d'arbitrage. On a pu voir au grand jour que Javier Tebas n'avait pas, le président de la Fédération espagnole, n'avait pas acheté les droits de la licence pour la Goal Line Technology. Donc on a eu droit à un but refusé injustement pour le FC Barcelone. Des décisions un peu litigieuses. Mais le Real qui vient sans doute de sceller sa Liga. Parce que là, du coup, ils sont à 8 points devant,
oui,
devant le Barça.
Oui, ça y est, pour eux, c'est fait aussi. Hein.
11 points même, pardon, ouais, devant le Barça.
Pour eux, c'est donc, fait. Hein,
c'est sans doute fait là. C'est sans doute terminé.
Non, le seul championnat qui resterait, c'est encore le championnat anglais. Et justement, en Angleterre, la finale de la Coupe, ça sera les deux Manchester, comme l'an dernier, Manchester City contre Manchester United.
Ouais, et puis moi je mets une petite pièce sur Manchester City quand même, ouais, parce que Manchester United c'est très très compliqué en ce moment quand même.
Très bien, merci messieurs, vous bougez pas, hein. Je crois que vous restez pour Au Bout du Foot, hein.
L'émission
où on va aller encore un peu plus loin. Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain étant Boulogne-Billancourt, non?
Bah oui, c'est nos voisins, ils sont juste à côté.
Ouais, c'est ça, hein.
Oui.
Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des contestations dans l'arbitrage dans l'aviron? Très peu.
Ouais. Bon, j'en ai vu quelques-unes dans ma carrière, mais bon, en général un peu anecdotique, mais oui.
Oui. Non, mais parce que maintenant il y a des gens. J'en ai vu des tableaux qui paraissent.
J'en ai vu par exemple des gens qui protestent parce qu'ils ont des algues sur la dérive.
Ah oui, ah
ça
oui,
j'ai vu.
Ah ouais, même dans l'aviron, on arrive à.
Oui. Bon, après, on a un beau corps arbitral qui sait très bien gérer. Voilà.
Bon, si on veut venir vous rejoindre après cette émission, s'il y a des jeunes qui veulent venir, donc il faut qu'ils attendent le mois de septembre, il faut qu'ils attendent les jeux, les médailles.
Ils peuvent venir nous voir dès maintenant, bien sûr, surtout les jeunes. Mais, et donc on est situé à la base nautique Île de Monsieur, comme je l'ai déjà dit, donc à Sèvres, mais juste à côté de la gare du T2 qui s'appelle Musée de Sèvres et pas très loin du terminus de la ligne 9, Pont de Sèvres.
Oui. Voilà. Et ça, il y a des initiations avant, on peut.
Oui,
on
bien sûr. Pour les jeunes, bien sûr, on les intègre dès qu'ils arrivent. Et puis pour les adultes qui veulent pratiquer, non pas en compète, on va commencer dès le mois de mai à proposer des stages de 3 jours pour que les gens regardent si ça leur plaît. Et puis si ça leur plaît, on les intègre au club.
Très bien, écoutez, merci. Pour finir sur le point du foot, vous avez eu un joueur célèbre qui a commencé donc à la CBB, on en parlait, c'est un gâchis, mais enfin bon,
oui,
Athènes Ben Arfa.
Oui, il y a eu Athènes Ben Arfa, oui, ouais, tout à fait.
Hein, puis je crois que Vincent Guérin a dû faire un petit passage une fois sa carrière terminée donc, à la CBB. Je ne sais pas s'il n'a pas été entraîneur, Stéphane.
Entraîneur, je ne crois pas, non.
Oui, joueur.
Je crois qu'il est passé par la CBB. Mm-hmm. Puis comme... Il faut quand même un peu atténuer, parce que je pense que Athènes Ben Arfa...
L'immense talent, quand même.
C'est pas vraiment un gâchis. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir sa carrière. Quoi.
Ouais. Très bien. Merci, messieurs. Merci, en tout cas, donc, d'être venus nous parler d'aviron, hein, Pedro. Et puis, à très bientôt. Vous nous ramenez, s'il y a un médaillé paralympique.
C'est promis.
Hein, c'est promis, juré. Très bien. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. On va remercier Jason et Léonard, notre duo d'attaque. On passe le témoin à notre ami Malik et toute la bande Au Bout du Foot pour aller encore plus loin de ce dont on vient parler. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Belle soirée à toutes et à tous. On finit avec Julien Clerc. Femme, je vous aime. On peut pas faire meilleur message. Belle soirée.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. je n'en connais que le fragile et difficile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul. Si seul, oui, mais si seul.
Paris FM.